belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, je vous la propose avec une combattante, une engagée. Une femme qui, derrière un formidable sourire, cache une force de conviction prête à soulever les montagnes. Eh bien, c'est de ces montagnes qu'elle n'hésite pas à soulever dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Marie-Noëlle Sibieude.
Bonjour Nathalie et bonjour Radio FM+.
Ravie de vous retrouver puisqu'on s'est déjà parlé deux ou trois fois derrière le micro. Cette nouvelle émission, c'est la première fois qu'on l'a fait ensemble, s'appelle Une belle rencontre. C'est quoi votre définition d'une belle rencontre, Marie-Noëlle Sibieude?
C'est un moment partagé avec une personne que l'on apprécie, déjà, parce qu'on partage la même vision des choses, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs parfois aussi, et parfois c'est une personne qu'on ne connaît pas et en qui on va découvrir des merveilles, une puissance forte, un échange tout simple qui va devenir la belle rencontre de la journée et dont on va être très heureux en fait.
C'est
parfois tout simple.
Notre première rencontre, c'est Thierry Telade qui nous a présenté. Et c'était ça. C'était tout d'un coup, on s'est mis à discuter toutes les deux. Et puis on s'est dit, ah ça, oui, ça, ah bah ça, ah bah ça. Et puis on s'est dit, bah voilà, je suis rentrée le soir, j'ai dit à mon mari, j'ai rencontré une fille super.
Merci.
Et puis quand on se voit, on se dit, bah faudrait quand même qu'on bouffe ensemble un jour, Marie-Noël.
Exactement. Voilà. Faudrait qu'on se pose et qu'on refasse le monde. Mais nos montagnes à gravir sont tellement importantes.
C'est ça.
Parfois, on n'a pas toujours le temps.
Nous, on a un problème de montagne. Marie-Noël, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, on va parler un petit peu de vous. Et évidemment, une des premières choses qui est forte quand on vous rencontre, je vous ai rencontré à un moment aussi dur de votre vie, vous avez perdu votre maman, donc on en a parlé parce que la mienne a 90 ans, donc c'est des choses qu'on évoque. Et puis, du soin que vous apportez dans votre rôle de grand-mère, de l'envie que vous avez. Par exemple, moi, je suis chroniqueuse littéraire, donc on parle beaucoup des livres d'enfants, du soin que vous avez d'ouvrir vos enfants, vos petits-enfants à l'écriture. C'est votre premier engagement, la famille?
Alors, mon premier engagement, ça a été ma famille, mes trois enfants que j'ai élevés, que j'ai accompagnés dans leurs différences, parce qu'on n'a jamais un enfant identique à l'autre, dans leurs différences, dans leurs spécificités, dans leur caractère, et que j'ai accompagné jusqu'à ce qu'ils s'épanouissent et que je me dise, j'ai fait mon travail de maman. Et aujourd'hui, je sais que je suis fière et que je peux les lâcher sur le chemin de la vie. Et qu'ils vont réussir parce que s'ils le veulent, ils ont toutes les armes pour ça.
Alors, combien d'enfants?
Alors, j'ai eu trois enfants. Voilà. Qui ont tous très bien réussi et qui sont tous très heureux dans ce qu'ils font. Parce que, alors moi, d'expérience, j'ai eu un papa qui a choisi mon métier. Qui n'était pas le métier que je voulais faire.
On va en parler juste après.
Voilà. Alors, on y reviendra. Et qui, quand j'ai pu rebondir, j'ai rebondi. Et je m'étais toujours promise que je ne me mettrais jamais en travers des envies et des espoirs de mes enfants. Donc, je les ai toujours accompagnés dans leur vie. Ils ont tous trois une très belle situation, mais ils sont tous trois aujourd'hui heureux et épanouis.
Et grand-mère, alors, combien de
fois? Et j'ai cinq petits-enfants. Cinq adorables petits-enfants. On parlait de lecture, de culture, il y a deux minutes.
De visite de musée.
Moi, j'ai cinq petits-enfants qui, tous les mois, à leur date anniversaire, donc le jour de leur naissance, reçoivent chacun un livre avec un petit mot. Voilà. Et depuis leur naissance. Donc, c'est un budget.
Bien sûr.
Mais c'est un choix de vie. Parce que pour moi, les éveiller à plein d'autres choses, à la lecture en sorte, à aller à un musée, à aller faire du geocaching dans la campagne, à aller découvrir notre environnement et notre nature, pour moi, c'est mon rôle de grand-mère, c'est mon rôle de transmission et c'est ma façon de les accompagner dans le monde actuel. Et aujourd'hui, par exemple, l'aînée de mes petites filles a 12 ans et j'arrive à lui offrir des livres qu'elle me dit « Tiens, je te le passe, celui-là, Manou, tu le liras et on en parle après ». Donc, je pense qu'on a gagné quelque chose dans l'éveil à l'autre, dans cette culture, dans plein de choses qu'on peut partager avec ses enfants et ses petits-enfants.
Et je vous ai vu choisir, enfin, je vous ai croisé plusieurs fois sur des salons du livre. Quand vous allez à la rencontre des auteurs, en plus, c'est ce qui va nous amener à parler du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que vous allez vraiment voir l'auteur, lui demander, qui vous explique le livre pour trouver vraiment le livre qui va parfaitement convenir à votre petite fille, votre petit...
Et oui. parce que je trouve que c'est important.
Vous avez besoin de comprendre le livre avant. J'ai
besoin de comprendre le livre avant et de me dire ce livre-là, il va lui plaire ou il va lui apporter quelque chose. À défaut de lui plaire, au moins il va l'éveiller à quelque chose. Et c'est la grande chance qu'on a dans nos relations avec les auteurs, on va y revenir bien sûr, hein, dans nos salons du livre et dans nos rencontres, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, nos auteurs locaux en tout cas, ils sont tous ouverts à ce genre de conversation, à ce genre d'échange, et qu'il ne faut pas hésiter à aller à leur rencontre pour échanger avec eux sur leur façon d'écrire, ce qu'ils ont écrit. Et jamais j'en ai vu un s'offusquer, qu'on passe à l'autre et qu'on n'achète pas un livre. Parce que c'est aussi une forme de parler de leur travail, une façon de, voilà, de les mettre aussi à l'honneur, de s'intéresser à ce qu'ils font. On peut se dire que ça ne va pas correspondre à la personne pour qui on est venu acheter un livre, mais on a retenu quelque chose de cet échange et ça me semble aussi très, très important.
Et puis, il y a l'engagement professionnel. 30 ans au service de la toute petite enfance. Vous nous en dites plus, Marie-Noël ?
Alors, je parlais tout à l'heure de mon papa qui avait choisi mon métier et j'étais assistante de direction trilingue dans un grand groupe industriel
français.
Vous
n'avez pas bien obéi alors parce que vous aviez dévié.
Alors, j'ai accepté, mais dès que j'ai pu prendre mon indépendance et mon autonomie, j'ai refait une formation. Donc, 30 ans d'éducatrice de jeunes enfants, 30 ans de multiples projets. Vraiment, tout aussi passionnants les uns que les autres, de la crèche privée à la crèche associative, du projet fantastique à la rencontre des mamans primo-arrivantes maghrébines, ne parlant pas un mot de français.
Et avec des accompagnements des fois douloureux. Enfin, ça, j'ai 30 ans d'accompagnement de la petite enfance, c'est combien d'enfants ? C'est 3000 enfants.
Je préfère pas compter.
Mais il n'empêche que quand on se rencontre, vous me dites, oh, hier, Nathalie, j'étais pas bien, j'ai accompagné un enfant qui était en difficulté. C'est-à-dire qu'il y a quand même des enfants qui émaillent votre parcours plus fortement que d'autres.
Alors, il y a plein de visages qui vont rester dans ma tête. Plein d'enfants avec des histoires tellement particulières, tellement spécial. Alors, on va passer très vite sur les enfants maltraités, mais malheureusement, ça fait partie de l'histoire, et pour lesquels on peut être heureux ensuite qu'ils aient retrouvé une vie épanouie et une vraie structure. On va penser à ces enfants en difficulté médicale, parce qu'il y en a beaucoup aussi, et qu'il faut accompagner. Et parfois, il faut accompagner autant l'enfant que les parents. J'allais dire que la maman, mais non, que les parents qui sont complètement démunis face à la maladie de leurs enfants, face à ce monde complètement... c'est un tsunami qui leur tombe sur la tête.
Voilà. Je le comprends.
Et il faut les accompagner, il faut accompagner les difficultés d'insertion, les difficultés scolaires. Il y a plein de combats comme ça à mener.
Avec toujours ce qui vous caractérise, c'est-à-dire en même temps cette rigueur, parce qu'il faut de la rigueur, et en même temps cette émotion, cette sensibilité qui vous est propre. Marie-Noël, vous êtes quelqu'un de solaire, de généreux, de touché aussi par la détresse humaine.
Parce que moi, ça me touche au plus profond de moi. Alors après, ma place de professionnelle, je sais la tenir. Je pense que j'ai su la tenir, mais il n'empêche que ça m'imprègne et il m'empêche que je pense que ces familles, ces parents, ces enfants ont besoin de notre bienveillance, de notre empathie et d'un regard positif sur leur situation et que c'est ce qui permet de leur donner la force d'avancer. Et cet accompagnement-là, pour moi, il était l'essentiel de ma vie d'éducatrice de jeunes enfants.
Et puis, comme ça suffisait pas, tous ces engagements, bien sûr, il y a la vie associative. Alors, la vie associative, comme même lanceuse d'alerte, et c'est ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui avec nous. Alors, je les ai listées, j'en ai peut-être oublié, Marie-Noël. Donc, évidemment, celle qu'on vient d'évoquer, qui est en rapport avec votre travail, c'est l'action auprès des enfants différents, avec Sésame Autistes, les actions auprès des ados, avec les scouts et guides de France, les actions auprès des plus démunis, avec Sac à dos, dont on est partenaire, qui est vraiment une cause qui est forte, forte sur Montpellier, qui même aujourd'hui SM à travers toute la France. Vraiment, c'est hélas un gros succès. Hélas.
On est un peu à l'identique des Restos du Cœur. Voilà. On se disait, on le fait une année ou deux, et puis non. Hélas, bah non. Sac à dos, ça fait 18 ans, et malheureusement, on va continuer.
Et qui est vraiment une action forte sur la ville de Montpellier. Mmh. Et puis, bien sûr, une cause qui vous tient énormément à cœur, c'est la cause écologique.
Oui.
C'est comme ça aussi qu'on a échangé la première fois avec des combats sur la décharge de Castries, sur Vive Montpellier Nord. Moi, je reçois souvent les notes de Montpellier Nord parce qu'on est aussi partenaire avec toute cette action sur
Les composteurs collectifs. Voilà. Alors voilà. En fait, Vive Montpellier Nord, c'est une association qui a été créée
à plein de choses.
En 2012, à un moment où, alors je ne vais pas citer son nom, mais l'élu en charge de l'urbanisme de l'époque, sous Hélène Mandrou, avait décidé d'urbaniser à tout va le Collège des Écossais, qui se trouve sur le quartier du Plan des Quatre Seigneurs, qui est un lieu que je vous invite à aller visiter tant il est magnifique. Et il avait été créé par Patrick Guédès dans les années 1800 comme un lieu d'enseignement, un lieu d'écologie et de biodiversité. Il était déjà précurseur de tout ce qui touchait à l'environnement. Et Patrick Guédès avait l'habitude de dire « Pour mieux connaître sa ville, il faut la regarder en haut, en hauteur. » C'est pour ça qu'il a créé sur ce domaine-là une tour sur laquelle on a une vue magnifique sur toute la ville de Montpellier. Cet endroit paradisiaque qui est sur le plan des Quatre Seigneurs devait être entièrement rasé et urbanisé à 100%. Et c'est à ce moment-là que ce combat a débuté, que Vive Montpellier Nord a été créé, qu'on a dû mettre 800 mentions de citoyens riverains et personnes mobilisées sur ce dossier, et qu'on a fini par gagner puisque la DRAC a classé cet endroit au titre des monuments historiques.
Et ça se visite encore ?
Et ça existe toujours, et ça se visite à chaque journée du patrimoine. Et vraiment, on peut y rentrer assez facilement. Et à défaut de visiter l'intérieur des locaux, on peut au moins s'imprégner de ce qu'est le jardin. Il y a un jardin méditerranéen magnifique, dont certaines plantes ont servi à Charles Flao pour créer le Jardin des Plantes de Montpellier. Donc c'est un lieu vraiment extraordinaire à visiter, et dont l'association Vue Montpellier Nord est très fière, bien entendu, d'avoir réussi à le sauver. À côté de ça, l'association a perduré et a souhaité s'orienter sur un plan environnemental et écologique, parce que vous l'avez dit, c'est un petit peu notre maraude, et a créé donc tout un collectif de composteurs, collectifs de quartier. Aujourd'hui, nous en gérons 7. Dans le quartier nord de Montpellier. On aimerait bien en avoir un petit peu plus parce que c'est vraiment ça, quelque chose d'extraordinaire qui prouve que nos déchets deviennent une richesse. C'est-à-dire que nos biodéchets deviennent du compost pour nos jardinières ou nos jardins. Uniquement parce que Dame Nature sait très bien faire les choses. Voilà. En dehors des composteurs collectifs, on gère des boîtes à livres. On organise tous les premiers samedis du mois un atelier d'auto-réparation vélo et trottinette, ouvert à tous et gratuit. Qu'est-ce que nous faisons encore ?
Quelques vies de grenier. Moi, je vous ai rencontré avec les salons du livre.
Et la défense des arbres, je vais rajouter, la défense de notre environnement, la défense des arbres, comme actuellement dans la rue Charles Vanel, où 35 pins cinquantenaires sont menacés de tronçonnage. Voilà, on essaye de défendre tout ça et nos fameux salons du livre. Parce que, à un moment donné, dans ma réflexion, moi qui suis une lectrice assidue, j'ai eu envie d'ouvrir l'association à autre chose et je remercie le bureau et les membres de Vive Montpellier Nord de m'avoir fait confiance. Et maintenant, ça fait 9 ans, je crois.
Alors moi, le premier, ça je peux le dater, je vous ai rencontré en juin 2019 à Malbosque. Ça, je me rappelle
d'accord.
Très bien.
D'accord. Alors, je pense qu'il y en avait
vous
eu
êtes
avant.
Très, très chaud, mais je pense qu'il y en avait eu avant.
Il y en avait eu avant, à notre mesure. Hein. Mmh. Il a fallu travailler, il a fallu rencontrer les auteurs. Je pense que le premier devait y avoir 20 exposants, 20 auteurs et autrices. Alors, nos salons du livre, ce sont des salons du livre qui ne s'adressent qu'à des auteurs et des autrices locaux et locales. Parce que le constat que j'ai fait, c'est que nous avions dans notre environnement, dans notre métropole, on va élargir au département, des vraies plumes et des vraies pépites en matière de littérature. Je sais que vous en avez reçu plein.
Moi, je
micro-là.
C'est le même.
Voilà.
On est dans la même mouvance,
on est dans la même idée.
Exactement.
Et que c'est hyper important de les mettre à l'honneur, hyper important de les faire connaître. C'est notre cru, c'est notre force locale. Et je pense que c'est capital que de pouvoir les aider à montrer ce qu'ils sont capables de
faire. Il y en a qui
faire.
Grandissent. Je me rappelle que c'est en ce juin 2019, c'est là où j'ai rencontré pour la première fois Mona Azam, qui aujourd'hui commence à atteindre une reconnaissance nationale forte.
Tout à fait. Il y en a plein. Alors je ne vais pas en citer. Enfin, on pourrait citer Florence Tolozan aussi,
bien sûr,
qui est pétrie de reconnaissance et de prix. Mais il y en a. Mais
tellement.
Mais ils sont tous.
Oui.
Enfin voilà. On va en oublier fatalement. Donc on va éviter de donner des noms, mais ils sont tous extraordinaires, chacun dans leur spécificité.
Après, des expériences aussi. Moi, je me rappelle de ce Malbosc, c'était un salon du livre, comme j'en ai pas vu beaucoup. Je dirais que le plan des quatre seigneurs, c'était pareil. Alors, le plan des quatre seigneurs, c'est un dont je me rappelle les plus festifs. Alors, je ne sais pas si c'est ce parking des plans des quatre seigneurs qui se prête à ça, voilà. Et puis, des expériences incroyables, comme les sorties de caisse de Carrefour. Enfin, il faut l'oser, ça.
C'est notre deuxième édition cette année. À la demande du directeur de la galerie marchande de Carrefour Tréfontaine, à Saint-Clément-de-Rivière, de faire un salon du livre. Alors, la première fois, je me suis dit, oh, quand même, dans une galerie marchande, on en a discuté en bureau et dans l'association, et on s'est dit, mais c'est une demande, pourquoi pas ? On verra bien ce que ça donne. Et c'est incroyable. Incroyable le succès que ça a eu.
Ah, oui.
Incroyable le nombre d'auteurs et d'autrices qui ont répondu à l'appel et qui ont été présents. Et incroyable la richesse des échanges qu'ils ont eu avec des gens qui venaient simplement faire leurs courses pour la semaine et qui se sont trouvés tous surpris de pouvoir échanger avec un auteur, une autrice, d'avoir un temps de compte pour leurs enfants, un atelier dans un coin où les enfants pouvaient dessiner, faire des marque-pages, etc. Et on nous en a redemandé, donc on a fait la deuxième édition.
Oui,
et ça va devenir un rituel au mois d'octobre. Chaque année, il y aura le Salon du Livre organisé par Vive Montpellier Nord dans la galerie marchande de Tréfontaine.
Ça, c'est formidable.
C'est extraordinaire.
Oui, c'est vraiment quelque chose qui change.
C'est amener la culture
au plus
quand
proche.
On va acheter ses courses de la semaine.
Surtout quand vous voyez la galerie, elle n'est pas si large que ça. Donc, il y a deux tables de chaque côté. Donc, c'est vrai que les gens qui sortent avec les caddies, ils tombent vraiment sur l'auteur, sur le livre. Et l'échange se fait là. Marie-Noëlle, avant de passer à la pause musicale que vous nous avez proposée, est-ce que vous avez à un moment ou un autre une réflexion, forcément c'est un peu intime ce que je vous demande, mais ces engagements, cette envie de s'engager, de ne pas accepter les choses parce que c'est comme ça, de jamais croire à l'inexorable, de toujours dire que moi, petite Marie-Noëlle à Montpellier, je peux quand même faire bouger les choses. C'est un peu intime, excusez-moi Marie-Noëlle, mais c'est formidable, mais vous l'analysez comment ? Vous savez d'où ça remonte ? S'il y a eu à un moment quelque chose comme ça, d'être tellement portée vers l'autre ?
Je ne sais pas d'où c'est parti. Honnêtement, je ne sais
pas
d'où c'est parti. Je pense que c'était en moi. Je me suis toujours engagée. Quand j'étais toute petite jeune ado, j'étais déléguée de classe. J'ai vu mes parents être engagés aussi dans notre vie. J'ai vu mes parents participer aux activités que l'on pouvait mener. Ils étaient parents d'élèves délégués, etc. Et puis, moi, toute petite, oui, j'étais déléguée de classe. En grandissant, j'ai pris d'autres responsabilités en devenant maman encore plus. Je pense que c'était en moi.
C'est en vous.
Mais je pense que, très sincèrement, si on creuse un peu chacun et chacune au fond de nous, on a tous cette envie de faire pas grand-chose. En fait, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Pas grand-chose pour améliorer ou apporter quelque chose à la vie de l'autre.
Ne pas croire qu'on est définitivement dans un monde individualiste.
Ne pas croire qu'on est individuellement dans un monde individualiste. C'est tout à fait ça. Et pouvoir apporter chacun sa petite touche, simplement. On n'est pas obligé de faire des grandes choses. Mais simplement, à l'endroit où l'on est, je pense qu'on peut apporter quelque chose. Les enfants font du foot. Pourquoi on ne pourrait pas apporter quelque chose au club de foot dans lequel ils sont ? Ils sont dans une association ou au conservatoire. On peut aussi, ne serait-ce que d'aller faire des photocopies ou distribuer des flyers. Mais chacun peut apporter sa touche à quelque chose et faire en sorte que ce monde qui est un monde particulier, qui est le monde hors monde professionnel, ce monde puisse être à la portée de tous et apporter à chacun l'impression d'y avoir participé, d'y avoir contribué. Je pense qu'on peut tous contribuer à la qualité de vie que l'on espère.
Donc, vous voyez, elle est combattante, engagée et en plus généreuse et optimiste. Donc, c'est super. Et elle nous a proposé une touche d'optimisme. Voilà,
en
on reste
d'optimisme.
Dedans, formidable. L'innocence. On écoute. Et merci Adrien d'être derrière le micro de l'autre côté. Ah, c'est Alix.
À chaque chanson qu'on censure,
à chaque mot que l'on rature,
c'est l'innocence qu'on assassine.
À chaque personne sans toi,
qui meurt de faim, qui meurt de froid,
c'est l'innocence qu'on assassine.
À chaque juste condamné,
à chaque résistant brisé,
c'est l'innocence qu'on assassine. À chaque père qui bat son fils, à chaque coup, chaque sévice, c'est l'innocence qu'on assassine. À chaque migrant qu'on refoule,
se fait dévorer par la houle,
c'est l'innocence qu'on assassine. À chaque femme tombée au sol, à chaque claque, à chaque viol, c'est l'innocence qu'on assassine.
À chaque soldat mort au combat,
pour une lutte qu'il ne choisit pas,
c'est l'innocence qu'on assassine.
Chaque vieux qu'on abandonne, qui ne reverra plus personne, c'est l'innocence qu'on assassine. À chaque messie sur la croix,
à chaque enfant qu'on ne croit pas,
c'est l'innocence qu'on assassine.
À chaque chanson qu'on écrit, à chaque mot que l'on se dit, c'est l'innocence qui renaît. À chaque pièce dans un gobelet et à chaque sourire échangé, c'est l'innocence qui renaît.
À chaque coupable détenu, à chaque victime reconnue, c'est l'innocence qui renaît. Chaque fils qui pardonne et dont la paix en lui rayonne, c'est l'innocence qui renaît.
À chaque migrant accueilli, à qui on a sauvé la vie, c'est l'innocence qui renaît. À chaque femme protégée, à chaque drame évité, c'est l'innocence qui renaît.
À chaque soldat qui renonce,
à chaque fin de guerre qui s'annonce,
c'est l'innocence qui renaît. À chaque vieux qu'on appelle papa et qu'on serre fort dans ses bras, c'est l'innocence
qui renaît.
À chaque jour,
à chaque seconde,
à chaque enfant qui vient au monde, c'est l'innocence qui renaît.
Et donc, on vient d'écouter une touche d'optimisme qui allait directement après l'optimisme bienveillant de Marie-Noëlle Sibieux, et qui nous a interprété l'innocence. C'est un choix de Marie-Noëlle qui nous a fait découvrir. Et je disais, il faut absolument que tu nous donnes les coordonnées pour qu'on invite ce groupe. Une belle découverte.
Avec grand plaisir, parce que c'est un groupe qui a été créé en 2004. Si je me trompe pas, ils vous le spécifieront. C'est un groupe de frères, sœurs, copains, copines, Moi, je les ai découverts, on parlait famille, enfants tout à l'heure, en 2005 ou 2006, par simplement l'intervention de mon plus jeune fils, qui devait avoir 16 ou 17 ans et qui écoutait ça en boucle dans la maison. Et je me suis laissée embarquer dans leur univers, en fait. C'est un groupe fantastique, avec des mots profonds.
Oui, il y a des engagements,
des j'ai entendu. Des engagements, des sentiments, beaucoup d'émotions. Quand je les écoute, je ressens toujours beaucoup d'émotions. Cette chanson, L'innocence, elle fait partie de leur dernier album qui s'appelle Partir. Et je trouve que ça raconte tellement bien, je vais dire, les mots MAUX de notre société.
Et avec beaucoup de tendresse, même dans la voix des chanteurs.
Exactement.
Alors c'est bien parce que vous avez parlé de la scène musicale locale, mais c'est pas tout à fait de celle-là dont on va parler, puisqu'on va parler de la scène littéraire locale.
Oui.
Et de ce qui nous amène aujourd'hui, et qui va se tenir donc en mai, c'est le salon off de la Comédie du Livre. Vous allez nous dire exactement son appellation, je voudrais pas... Et ça sera en même temps que la 39e Comédie du Livre qui s'étendra du 10 au 19 mai. Vous pouvez déjà trouver la programmation pour la comédie, elle est disponible. Mais comment elle est née, cette idée de faire un off, Marie-Noël Sibiel?
Alors, on a parlé tout à l'heure des salons du livre que nous organisons depuis quelques années. Et au travers de ces salons, toujours bon enfant, toujours dans une ambiance très bienveillante. On a bien entendu tissé des liens avec des auteurs, des autrices qui, à chaque proposition, viennent, parce que je pense qu'il y a voilà, cette confiance qui s'est installée aussi sur la façon dont nous avons de faire les choses. Et on a tissé des liens et beaucoup se sont confiés sur leur déception et leur difficulté à ne pas pouvoir participer à la Comédie du Livre. Ça fait bien environ 2 ans qu'ils en parlent, 2 ans qu'on sent que c'est quelque chose de prégnant et d'important pour eux. Et dans notre idée de mettre en valeur les talents, les plumes, les pépites de nos auteurs et autrices locaux et locales, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et moi, je suis une fan du Festival Off d'Avignon. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cadre-là, dans ce sens-là.
C'était ça la première référence.
La première chose qui m'est venue à l'idée, c'est, mais il y a bien eu, dans le domaine du théâtre, dans le domaine de l'expression orale, un jour, quelque chose qui a fait que le Festival d'Avignon, il s'est vu avec un off, parce que certains n'étaient pas admis dans le festival officiel. Et je me suis dit, mais pourquoi n'arriverait pas, nous, à faire la même chose en termes de littérature, enfin d'écriture pour nos auteurs et nos autrices? Allons-y, essayons, fonçons. Donc on en a parlé, enfin j'en ai parlé à un petit groupe de nos auteurs et autrices qui ont du temps, qui travaillent moins, qui sont disponibles. On a créé un petit groupe de réflexion autour de ça. Et tout le monde a été enthousiaste tout de suite. Tout de suite. On a créé un groupe de réflexion, on se réunit une fois par mois et on a essayé d'avancer, de réfléchir comment faire ce off, dans quelle mesure. Alors la première de nos réflexions a été qu'il fallait, bien entendu, essayer de le faire en collaboration avec la Comédie du Livre, qui est quand même connue, c'est la 38e édition, donc depuis 38 ans à Montpellier. Et donc, on a envoyé un courrier avec une demande de rendez-vous à l'adjointe à la culture pour pouvoir lui en parler, à la ville, à monsieur le vice-président à la culture à la métropole, à monsieur Régis Penalva, voilà. Alors, ils nous ont tous accueillis, on va dire, en répondant à nos courriers, mais en nous disant qu'ils n'avaient pas le temps de nous recevoir. Ceci dit, ils sont au courant. Qu'il va y avoir une comédie off du livre. C'était important pour nous qu'on ne le fasse pas dans leur dos et que la ville soit informée aussi qu'il y avait des auteurs et des autrices locaux, locales, qui avaient du talent et qu'on avait envie de mettre à l'honneur en dehors de tous les nationaux qui pouvaient venir sur la ville. C'est important, la comédie du livre, je ne la renie pas. C'est toujours un événement très important. C'est une façon de faire découvrir des auteurs nationaux ici, chez nous.
Surtout qu'en plus, c'est un salon qui, il faut le reconnaître, qui est très exigeant.
Tout le monde ne peut pas venir.
Oui, c'est pas people. J'en connais des beaucoup plus people. Lui, il y a vraiment une exigence éditoriale.
C'était important. Et c'est important aussi, je trouve, que nos locaux, qui ne sont pas des gens à bannir et qui sont des gens à mettre à l'honneur, soient vraiment, puissent vraiment avoir une place.
Parce que c'est vrai que les auteurs locaux, ils ont deux difficultés. Ils ont un, d'être local, et souvent d'être auto-édité. C'est aussi un des problèmes. Et vous parliez de des gens qui vous accompagnaient. Je crois que vous êtes rapproché de François Millet, qui avait essayé ça quand il avait sa librairie Tapuscrit, de faire justement, avec Scrupule, une espèce de collectif de petites librairies qui acceptaient de prendre en dépôt des auteurs auto-édités. Exactement. Chose qui ne peut pas être faite par les grandes librairies.
Sauf ne peut pas être faite. Alors, un auteur auto-édité, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est un auteur qui est à la fois écrivain et éditeur. C'est-à-dire qu'il écrit son livre et il l'édite.
Et il faut quand même savoir qu'il y a 60% de l'édition en France qui est de l'auto-édition.
Oui, tout à fait.
Il y a plus de livres qui sortent auto-édités
qu'édités. Voilà.
Et donc, moi, j'avais vécu j'étais assez proche de François Millet, que je salue, parce que je pense qu'il écoutera l'émission, à cette époque-là. Et il y avait eu une intrusion des auteurs locaux dans la Comédie du Livre. C'était l'ancien mandature, c'était l'ancien maire. Et à travers une librairie.
À travers une librairie. Alors, cette année, ça n'était pas possible. Ouais. Donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose. On a commencé à travailler ce projet. Alors, Vive Montpellier Nord est une association qui fonctionne sans aucune subvention. Donc, la difficulté, c'était de pouvoir trouver des lieux d'accueil et des lieux vraiment pour recevoir tous ces auteurs et autrices. On a fait deux demandes d'occupation de domaine public sur des salles municipales qui nous ont été refusées ou pour lesquelles on n'a pas eu de réponse à ce jour. Et donc, on s'est dit qu'il fallait avancer et on s'est orienté vers des gens privés, des restaurateurs, des directeurs de galeries d'art, des propriétaires de jardins, tout ça dans l'Écusson.
C'est exactement la démarche d'Avignon. Hein.
C'est exactement, c'est pour ça qu'on est parti dans le trip d'Avignon, de se dire on va trouver et on va y arriver. Et aujourd'hui, on a suffisamment de lieux d'accueil pour accueillir à ce jour les 70 auteurs et autrices qui se sont inscrits pour participer à cette Comedy of du livre.
Donc le nom, c'est la Comédie Off du Livre.
Oui.
Pas eu de problème pour reprendre l'idée. Alors,
ça a été déclaré.
D'accord.
Pas sur.
D'accord, mais c'est pas de souci.
Je sais même plus où ça se déclare, mais voilà. Et ça a été accepté.
D'accord.
Aucun souci. Aucun membre de la municipalité actuelle n'est venu nous dire que nous n'avions pas le droit et que nous ne pouvions pas utiliser ce terme, donc Comédie Off du Livre à Montpellier. J'espère qu'avec le temps,
ça va s'installer.
C'est sûr qu'il y en aura une deuxième, parce que même si la ville ne souhaitait pas faire appartenance, elle continuera à exister. On avance bien, on a donc les lieux d'accueil.
Le premier communiqué de presse que j'ai reçu, c'était 50 auteurs, une dizaine de lieux. On en est où au niveau des
aujourd'hui,
auteurs?
Aujourd'hui, on en est à une trentaine de lieux, 70 auteurs. On vient d'avoir l'accord pour, et c'est une de mes fiertés, on parlait petite enfance et jeunesse tout à l'heure, on vient d'avoir l'accord pour occuper les Jardins de la Reine.
D'accord.
Et ça sera notre pôle enfance-jeunesse. Tous ceux qui souhaitent pourront venir sur les Jardins de la Reine y rencontrer des auteurs et autrices de livres pour les enfants, pour la jeunesse. Il y aura un atelier d'écriture, il y aura un atelier hiéroglyphe, il y aura des conteurs, des conteuses.
Je l'avais découvert avec quelqu'un que vous avez croisé sûrement, qui est Marcel Camille, qui avait déjà fait des choses
Marcel
là-bas.
Camille fait des choses là-bas, effectivement.
Le lieu est très joli en plus.
Le lieu est magnifique, il se prête bien, il est sécurisé, ça se prête bien à un pôle enfance. Nous sommes en train de travailler avec un auteur et une autrice qui sont tous les deux enseignants en école élémentaire et avec qui on est en train de créer un pôle pédagogique pour que quelques écoles qui le souhaitent de la ville puissent venir aussi rejoindre. Le vendredi sur ce lieu, participer donc, à la rencontre des auteurs.
Sur le vendredi, samedi, dimanche.
Alors, on est sur le vendredi et le samedi. Oui, voilà. Nous serons sur le 17 et le 18 mai.
On rappellera tout ça et on va mettre tout ça sur le podcast.
Voilà.
Souvent, dans vos combats, on en a parlé beaucoup en première partie d'émission, sur vos engagements, Marie-Noëlle Sibieude, c'est des histoires de rencontres.
Oui.
Donc, les rencontres avec les auteurs depuis presque 10 ans sur les salons. Cette tendresse qu'ils ressentent, que vous avez vis-à-vis d'eux et qu'ils ont envie de partager. Dès le début, vous avez trouvé des gens qui vous ont suivi.
Dès le début.
Moi, je
j'aurais jamais cru,
voilà,
sincèrement.
Ce que j'aurais dit, ouais.
J'aurais pas pensé. Je me suis dit, ils vont me dire, mais tu es folle. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu vas jamais y arriver. Alors, je vais en profiter pour reprendre une maxime que j'aime beaucoup, qui appartient à Mark, qu'on attribue à Mark Twain. Je sais pas si ça lui appartient. C'est, ils ne savaient pas que ce serait difficile, alors ils l'ont fait. Alors, moi, je savais pas que ça serait aussi difficile. Je pensais que ça allait couler de source. Alors oui, c'est difficile. Oui, c'est pas évident. Oui, on n'a pas de gros moyens. Oui, on fait avec notre persuasion, enfin notre au plus profond de nous,
notre force de conviction,
notre conviction, voilà. Et oui, on fait aussi avec l'amitié, parce que je crois que c'est ce mot-là qu'on peut employer, et la bienveillance que la quasi-majorité de nos auteurs et autrices nous ont donné. Il y a des auteurs et des autrices qui m'ont dit, moi, dans la committee of du livre, je peux fermer la vente de mes livres et ma présence une demi-journée pour être bénévole et accompagner tous ceux qui veulent.
De toute façon, les gens qui sont très... Parce que même dans les auteurs locaux, il y a des gens avec un fort égo qui...
Oui, il y en a quelques-uns. Ouais, on les connaît, on le sait. Mmh. Et puis, ils sont pointés, on sait qui c'est. On sait que ceux-là, on peut... Voilà. On peut rien leur demander et que l'importance pour eux est qu'ils soient mis en valeur. Et après, on a des gens qui ont conscience que du travail. Je pense qu'ils ont conscience quand même du travail que l'on fait et qu'ils ont conscience du travail que l'on fait et de l'importance que de pouvoir partager ces moments-là.
Voilà. Les compagnons de route, bon, j'ai cité François Millet, je crois qu'il y a Doris que je reçois bientôt. L'émission va être diffusée le 16.
D'accord.
Parce qu'on l'enregistre un petit peu en avance, mais voilà, faut en parler juste avant l'événement aussi. Il y a eu beaucoup d'apports d'idées, justement, dans les échanges.
Alors, dans l'équipe qu'on a créée au départ, il y a François, bien entendu, il y a Doris que vous venez de citer, il y a Régine Giraud. Nina Debel, de son nom d'autrice, qui avant nous, on a Sylvain Sixou, qui est
très bon auteur.
Un auteur très, très bon que auteur. J'ai découvert voilà, à l'un de nos salons du livre et vraiment qui a une plume extraordinaire, qui est un très bon auteur. Ils sont tous extraordinaires. Il y a plein d'idées et c'est, moi je suis pour le collectif. Je trouve qu'ensemble, on arrive à faire des choses, bien entendu, mais c'est ensemble qu'on peut arriver à mieux gérer les choses, avec toutes les idées qui fusent, avec tous les accompagnements du coup qu'on peut avoir. Et c'est ensemble, et chacun est libre dans notre association, de prendre sa responsabilité et d'amener une idée nouvelle ou de nous dire « j'ai cru bon d'aller vers un tel et voilà ce qu'il en est advenu ». Et je pense que c'est important aussi que voilà ce moule se fasse dans l'équipe.
Ce
c'est une question de confiance. Ce collectif est important
c'est
pour
ça,
nous.
C'est de là de donner la créativité.
Voilà.
Il nous reste deux petites minutes, Marie-Noëlle. J'aimerais qu'on... Peut-être, je ne sais pas si c'est... On est trop en avance pour citer quelques lieux où on pourra vous retrouver.
Alors, je pense qu'on les retrouvera et puis on vous les fournira,
voilà.
Bien entendu.
Pour les mettre en podcast,
surtout. On les mettra dans le podcast. L'idée, c'est de faire... chaque citoyen, citoyenne qui voudra nous rencontrer se verra à un endroit de la ville, enfin du cœur de ville, hein, proche du Pérou, remettre un plan de la ville de Montpellier avec les indications des lieux et les auteurs qu'elle peut y rencontrer. Voilà.
Donc, il y aura un plan
Donc,
com qui va...
Plan,
vous avez à peu
com.
Près, vous savez, un mois avant, vous allez commencer à vous...
Alors, on a décidé de travailler ce fameux plan le 16 avril. Donc,
eh ben
on
voilà.
est un mois avant.
Eh ben, on sera diffusé le 16 avril, je crois.
Eh bien, voilà. Et eh ben, à ce moment-là, on pourra, le 17 ou le 18, vous fournir le plan, les auteurs présents, les lieux. Il y aura quelques conférences aussi. Et toutes les animations qui seront tenues à l'occasion de cette première Comedy Off du livre.
Eh bien, merci beaucoup, Marie-Noëlle Sibieux, de ce rendez-vous. Je sais qu'on se retrouvera pour d'autres rendez-vous. En plus.
Oui, ça, je n'en doute pas une minute.
Et on souhaite une belle vie à ce moment littéraire, autre, sur Montpellier, qui en rien ne concurrence, ou ne cherche à concurrencer, mais donner un autre visage de la littérature régionale.
Tout à fait, c'est exactement ça. Merci pour cette belle rencontre.
À bientôt, au revoir.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.